Merci de rester à l'écoute de RFI. Les midis à Paris, 10h en temps universel. Le journal tout de suite avec vous, Jean-Baptiste Marot. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Son avion s'est posé il y a quelques minutes en Australie, son pays natal. Depuis quelques heures, Julian Assange est un homme libre, comme convenu avec la justice américaine. Celui-ci s'est présenté devant un tribunal des îles Mariannes ce mercredi matin. Une audience au cours de laquelle le lanceur d'alerte a plaidé coupable et a été condamné à une peine qui correspond au temps qu'il a déjà passé en prison. On y revient dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, l'ouverture du procès pour espionnage du journaliste américain Evan Gershkovitch, arrêté en Russie. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, officiellement désigné prochain secrétaire général de l'OTAN. Comme tous les jours, on fera le point aussi sur la campagne pour le premier tour des législatives en France. On est à J-4 aujourd'hui. Et puis au Kenya, après la journée de manifestation qui s'est achevée dans le sang hier à Nairobi, un nouvel appel à la mobilisation est lancé pour demain jeudi. Il vient donc tout juste d'atterrir en Australie depuis quelques heures. Julian Assange est désormais un homme libre qui retrouve son pays natal comme prévu par l'accord qu'il a passé avec la justice américaine ces derniers jours. Je vous le disais, le fondateur de l'organisation Wikileaks a comparu ce matin devant le tribunal fédéral de Saipan aux îles Mariannes en plein Pacifique. Une audience à l'issue de laquelle le fondateur de l'organisation Wikileaks, le lanceur d'alerte, a retrouvé la liberté après avoir plaidé coupable d'obtention et de divulgation d'informations sur la défense nationale. Guillaume Nodin est le correspondant de RFI à Washington.
Selon les témoins qui se trouvaient sur place, le fondateur de Wikileaks est arrivé au tribunal de cette île américaine du Pacifique ce mercredi à 9h du matin, heure locale, vêtu d'un costume sombre, d'une chemise et d'une cravate. Entouré de ses avocats, il a plaidé coupable d'une violation de la loi américaine sur l'espionnage en expliquant qu'il pensait être protégé par le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. Les procureurs du département de la justice se sont ensuite exprimés. Julian Assange a même échangé quelques blagues avec la juge qui lui demandait s'il était satisfait du déroulement de la procédure. « Ça dépend du résultat », a répondu celui qui a reconnu sa culpabilité. Et le résultat, c'est que comme prévu, il n'a été condamné à aucune peine de prison en plus des 62 mois déjà effectués près de Londres. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Lui est le premier journaliste occidental poursuivi pour espionnage en Russie depuis l'époque soviétique. Bien que la justice russe n'ait jamais étayé ses accusations, le procès à huis clos du reporter américain Evan Gershkovitch s'est ouvert ce matin devant un tribunal de la ville de Yekaterinbourg dans l'Oural. Interpellé en mars 2023 par le FSB, il est accusé par Moscou d'avoir transmis à la CIA des informations sensibles concernant l'un des principaux fabricants de chars russes. Pour cela, Evan Gershkovitch encourt 20 ans de prison. L'intéressé, mais aussi ses proches et son employeur, rejettent catégoriquement ces allégations. Ils accusent la Russie d'avoir monté toute l'affaire pour échanger Evan Gershkovitch contre des Russes incarcérés en Occident. Sur le front de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky s'est lui rendu à Pokrovsk ce matin, une ville de la région de Donetsk qui se trouve dans un secteur particulièrement difficile, secteur du front où les Russes sont à l'offensive depuis plusieurs semaines. Sur place, le chef de l'État ukrainien a notamment rencontré les soldats qui défendent la cité. L'Ukraine qui se félicite par ailleurs aujourd'hui de la nomination de Mark Rutte à la tête de l'OTAN. Les États membres de l'organisation ont officiellement désigné tout à l'heure le Premier ministre néerlandais qui va prochainement quitter son poste. Mark Rutte succédera à Jens Stoltenberg le 1er octobre au poste de secrétaire général de l'Alliance. On en vient aux échos de campagne en France. À J-4 du premier tour des législatives anticipées, deux informations à retenir ce matin. D'abord le départ d'Aurélien Pradier des Républicains, le député du Lot estime que son ancien parti est mort. Il se représentera dimanche dans sa circonscription sous l'étiquette de son micro-parti du courage. Ensuite, cette déclaration de la chef de file des écologistes, Marine Tondelier, a dit tout à l'heure qu'elle allait écrire aux leaders du camp macroniste pour leur demander un rendez-vous. Elle souhaite avoir avec eux une explication les yeux dans les yeux sur leur possible stratégie du nini au second tour. Hier soir, vous le savez, un premier grand débat télévisé a par ailleurs eu lieu entre des représentants des trois principaux blocs en lice le week-end prochain. Le Rassemblement National, la majorité sortante et le Nouveau Front Populaire, débat au cours duquel il a encore été beaucoup question du chiffrage du programme du RN et de la façon dont il compte financer les réformes très coûteuses auxquelles il entend procéder s'il arrive au pouvoir. Une fois encore, Jordan Bardella a été sommé d'expliquer comment il entendait engranger de nouvelles recettes. L'une des rares seulement connues à ce jour, c'est la suppression de la niche fiscale des armateurs, Nicolas Feldman.
Depuis 20 ans, les armateurs français sont exemptés d'impôts sur les sociétés. À la place, Ils paient ce que l'on appelle une taxe au tonnage, qu'importe les résultats de leurs entreprises. Une niche fiscale injustifiée pour le RN qui entend la supprimer avec un argument. Le manque à gagner pour les caisses de l'État était en 2023 de plus de 5 milliards d'euros. Un chiffre à relativiser, explique Yann Alix, spécialiste du transport maritime, délégué général de la Fondation C'est Facile.
On a eu quand même un enchaînement de trimestres exceptionnels et donc des revenus exceptionnels. Et donc effectivement, on a eu une perte de fiscalité qu'on pourrait qualifier d'exceptionnelle. Mais dans des années normales, on est plus autour d'une cinquantaine de millions d'euros de manque à gagner.
Supprimer cette niche fiscale rapporterait donc en réalité jusqu'à 100 fois moins que ce qu'annonce le RN. Mais sans ce dispositif, les armateurs français risquent surtout d'être pénalisés face à la concurrence.
Ce n'est pas un mécanisme propre à la France ou propre à l'Europe. Toutes les puissances maritimes mondiales l'utilisent. Donc vous auriez une délocalisation des flottes en dehors des frontières européennes. Ça aurait comme conséquence une perte de souveraineté nationale et européenne et une perte de compétitivité.
La suppression de la niche fiscale des armateurs n'est en tout cas plus un sujet tabou. En plus du RN, les partis de gauche et les Républicains y sont ces dernières semaines favorables.
Au Kenya, après la sanglante journée de manifestation qui a fait au moins 13 morts hier à Nairobi, l'une des figures de proue du mouvement de contestation contre la politique fiscale du gouvernement appelle à une nouvelle journée de mobilisation dans un message posté sur X. Elle appelle à une marche pacifique en blanc demain jeudi. RFI à 16h36 à Rangoon en Birmanie où la junte au pouvoir depuis le coup d'état de 2021 est sur la défensive alors qu'elle a perdu ces derniers jours le contrôle de l'une des stations balnéaires les plus populaires du pays. Les combats avec un autre groupe armé opposé aux généraux ont également repris dans le nord de l'État Shan, un État où un cessez-le-feu avait pourtant été signé grâce à une médiation chinoise. Précision Yelena Tomic.
Loin des projecteurs, la guerre continue de faire rage en Birmanie et la junte affaiblie dans ce conflit qui s'installe dans la durée essuie quasiment chaque semaine de nouveaux revers, à commencer par l'ouest dans l'État Rakhine où la puissante armée d'Arakan est parvenue 7 mois après le lancement d'une offensive d'envergure à s'emparer, selon les sources locales, de l'un des 4 aéroports locaux utilisés par la junte, notamment pour le renfort des troupes et le ravitaillement en armes et munitions. Un important poste de commandement de l'armée serait tombé aux mains des insurgés qui ont également réussi à capturer dimanche une ville balnéaire très prisée par les manias proches des généraux qui ont construit au fil des années des dizaines de villas et hôtels de luxe. Autre exemple des difficultés de la junte sur le terrain, à des centaines de kilomètres de là, dans le nord-est du pays, la reprise de l'opération 1027, une offensive lancée en octobre par un trio de groupes ethniques armés dans le nord de l'État Shan et interrompu suite à une trêve négociée sous l'égide des Chinois. L'Alliance des Trois Fraternités a décidé ce mardi de relancer l'offensive, accusant la junte d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu à de multiples reprises.
Les sports pour finir en foot, c'est ce soir que la France connaîtra son adversaire en 8e de finale de l'Euro, finalement 2e du groupe D après leur piètre performance face à la Pologne hier. Les Bleus seront posés au 2e du groupe E, soit l'Ukraine, la Belgique, la Slovaquie ou la Roumanie. Et puis en basket, la fameuse draft de la NBA aura lieu la nuit prochaine. La draft, vous le savez peut-être, hein, c'est ce cérémonial au cours duquel les jeunes talents intègrent la prestigieuse Ligue nord-américaine. La question, bien sûr, cette année, qui pour succéder à Victor Wembanyama, devenu l'an dernier le premier Français sélectionné en première position, un joueur tricolore peut-il rééditer l'exploit? On voit ça tout de suite avec Victor Missistrano.
Difficile de passer après un Victor Wembanyama au centre de toutes les folies il y a un an. La QV 2024 s'annonce pourtant exceptionnelle, comme nous l'explique Samy Sadik, spécialiste basket au journal L'Équipe.
Normalement, on verra un des Français être appelé numéro 1, voire peut-être 1 et 2, ce qui serait historique pour un autre pays que les États-Unis.
Zachary Risacher et Alexandre Sarr sont attendus tout en haut. Les dernières prédictions placent aussi Tidjane Salin dans le top 10. Alors comment expliquer une telle convoitise autour des joueurs français ?
Les équipes NBA sont sensibles au fait que les jeunes Français qui se présentent à la draft ont joué dans un environnement professionnel quand ils viennent par exemple du championnat de France. Ils sont sensibles aussi à la réussite un peu de la formation française. On a une génération qui est un petit peu exceptionnelle. L'été dernier par exemple, toutes les équipes de jeunes masculines et féminines sont arrivées dans le dernier carré de leurs compétitions respectives.
Être drafté tout en haut, c'est toucher le gros lot, un salaire de 10 millions de dollars pour la seule première année de contrat.
Sélectionner un joueur avec le choix numéro 1, le choix numéro 2, c'est un gros investissement pour une franchise NBA et c'est une marque de confiance. Donc le joueur qui est sélectionné à ce rang-là va nécessairement avoir la chance de briller en NBA. On va lui donner sa chance.
Mais tout cela n'est pas une fin en soi. Il y a 10 ans, le Serbe Nikola Jokic était drafté en 41e position. Il est désormais considéré comme le meilleur joueur du monde.
C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Emmanuel Bastide et ses 8 milliards de voisins sur RFI.